Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand qui nous attend sur Europe 1 pour nous dépayser, nous changer un peu les idées à présent. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui d'aller faire un tour dans les fastueux salons du Second Empire. Seulement nous allons nous y rendre par l'escalier de service et les portes dérobées. Ce sont en effet les alcôves de cette époque étonnante que nous allons explorer ensemble cet après-midi.
Alors Franck, vous allez nous présenter les grandes courtisanes de l'époque ?
Oui, les grandes et les petites. Bref, tout ce monde de cocottes et de demi-mondaines qui a littéralement explosé sous Napoléon. Napoléon III. La plus célèbre d'entre elles reste la comtesse de Castiglione. Nous allons faire connaissance avec elle et vous allez voir, c'était une dame très bien.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Bienvenue au temps des crinolines de moire, de taffetas, de mousseline et des corsets de dentelle, au temps des coûteux attelages en landau phaéton Victoria. Bienvenue dans un Paris rebâti par le préfet Haussmann, Paris de l'opéra comique et d'Hortense Schneider, des hôtels particuliers de la plaine Monceau. Nous allons flâner aujourd'hui chez Tortoni et au Divan, les cafés mythiques des grands boulevards, et surprendre la cour dans un bal aux Tuileries, une partie de campagne au Chalet des Îles, une escapade en chemin de fer jusqu'à Biarritz chez l'impératrice. Bienvenue sous le Second Empire, c'est-à-dire le règne de Napoléon III. Nous serons aujourd'hui dans les années 1850 et 1860. Alors pour résumer les plaisirs de cette étrange parenthèse, pour évoquer l'étourdissement de toute une élite nouveau riche au rythme endiablé d'Offenbach, on a forgé le terme de « fête impériale ». L'ornement principal de ce carnaval en éclats de rire, ce sont les belles femmes au décolleté plongeant, de quoi mettre en émoi les gandins, dames du monde et surtout du demi-monde, selon l'expression d'Alexandre Dumas fils, courtisanes de légende ou de fortune, cocottes et grandes allongées, femmes à tous les étages pour tous les budgets. Vous l'aurez compris, comme au revers des plaisirs les moins coupables, il y a du sublime, du piquant, du grinçant et aussi du sordide dans le programme que je vous suggère aujourd'hui et qui pourrait se résumer à l'énoncé de quelques noms aux parfums joliment désuets, Cora Perle, Blanche Dantigny, Alice Ozy ou Esther Lachmann que vous connaissez mieux sous son titre de marquise de Païva. Ah, la Païva. Rarement, sans doute, dans notre histoire, certaines femmes auront su à ce point se rendre maîtresse du désir. Je cite le Zola de Nana. Bien entendu, on m'attendait au tournant, j'imagine. À 7h, écrit Zola quand son personnage met en émoi toute une salle de spectacle, ses moindres mouvements soufflaient le désir. Elle retournait la chair d'un geste de son petit doigt. Des dos s'arrondissaient, vibrant comme si des archets invisibles se fussent promenés sur les muscles. Des nuques montraient des poils follets qui s'envolaient sous des haleines tièdes et errantes, venues on ne savait de quelle bouche de femme. Ce n'est certes pas tout le Second Empire que je vous propose d'explorer aujourd'hui, c'est la zone interdite de ces plaisirs plus ou moins dissimulés. Et pour nous y aider, j'ai demandé à deux historiens de cette époque de nous rejoindre. Gabriel Houbre a publié en 2006 « Les archives secrètes de la police des mœurs », un ensemble de documents incontournable sur le sujet. Bonjour Gabriel Houbre.
Bonjour.
Et bonjour à Éric Anceau qui a publié il y a quelques années une biographie de Napoléon III qui a fait date et qui ressort ces jours-ci dans la collection Texto chez Talendier. Bonjour Éric Anceau.
Bonjour Franck.
Cette période du Second Empire a été une période d'accélération formidable, à tous les sens du mot formidable d'ailleurs.
Tout à fait, en particulier dans le domaine économique. Avec Napoléon III, on a le premier souverain du 19e siècle qui donne une telle importance à l'économie. Dès ses années de jeunesse, en fait, il s'y est intéressé. Imaginez qu'il a visité l'Angleterre à 3 reprises. Il s'est rendu aux États-Unis. Devenu président de la République, il va attribuer tout un budget
considérable. Oui, à la faveur de la révolution de 1848, on instaure la Deuxième République. Et le premier président, le seul du reste de cette Deuxième République, c'est Louis-Napoléon Bonaparte. Oui. Celui qui deviendra Napoléon III.
Qui présente la double particularité dans notre histoire d'être à la fois notre premier président de la République et notre dernier souverain.
Exactement.
Très tourné donc vers l'économie. Imaginez que juste avant l'Empire, il prononce un grand discours à Bordeaux en octobre 1852 où il donne un programme de réforme économique absolument sans précédent. Nous possédions l'Algérie depuis une vingtaine d'années à l'époque et donc il s'agit de la mettre en exploitation selon ses idées saint-simoniennes. Dans le domaine des transports, le chemin de fer, 2800 km au moment où il monte sur le trône, 17 500 au moment où il le quitte en 1870. Le crédit, les banques de dépôt, imaginez la Société Générale, le Crédit des Lyonnais tant décrié aujourd'hui, sont nés sous le Second Empire pour drainer l'épargne des particuliers, l'orienter vers l'économie.
Personnalité passionnante, fascinante que celle de cet empereur Napoléon III, tout en contraste et en contradiction, disons-le, un homme qui aussi, et peut-être surtout, aimait beaucoup les femmes.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et en attendant votre récit, Franck, nous vous retrouvons avec vos invités sur Europe 1. Éric Anceau, qui est historien spécialiste de l'histoire de France du 19e siècle et plus particulièrement de la 3e République et du Second Empire. Également avec nous, Gabrielle Houbre, qui est historienne, maître de conférence à l'université Paris 7 Diderot. Et nous nous intéressons aujourd'hui aux courtisanes du Second Empire.
On a du Second Empire, Gabrielle Houbre, l'image d'une période où l'argent coule à flot. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est une légende ou une réalité?
C'est une réalité, mais pour une toute petite minorité, évidemment, oui, de la société. La plupart des gens ne participent absolument pas à cette fête impériale dont vous avez rappelé l'importance et, évidemment, se retrouvent avec des moyens plus que démunis, ce qui est une des raisons qui peut bien sûr amener à la prostitution.
Ce qui est assez surprenant, c'est que lorsque Napoléon III devient président en 48, enfin toute fin de l'année 48, il a des idées, Éric Anceau, qui sont globalement des idées socialistes, disons-le.
Il est présenté comme un socialiste, lui-même se présente comme un socialiste dans ses ouvrages. Je pense ici à De l'extinction du paupérisme, par exemple. Alors, c'est un socialisme très particulier. George Sand le qualifie de socialisme, mais très vite, elle en revient. Un socialisme très autoritaire, des colonies dirigées par des contremaîtres, où les ouvriers, certes, ne seront plus au chômage, mais seront contraints de travailler de force. Son programme, qu'on présente comme un programme saint-simonien, est un programme qui...
Quand vous dites saint-simonien, pour une grande partie de nos auditeurs, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est toute une philosophie
qui vient du duc de Saint-Simon, donc qui lui-même était socialiste, l'un de ces socialistes utopistes. Alors l'idée, si vous voulez, c'est d'arriver au progrès et au bonheur par l'économie.
Exactement.
Donc injecter beaucoup d'argent dans l'économie.
Ce qui est une idée très nouvelle, évidemment.
Très nouvelle. L'État n'intervenait que très très peu au XIXe siècle. Avec les Saint-Simoniens, avec Napoléon III, pour la première fois, on va avoir un État interventionniste dans tous les domaines. On a évoqué le transport, on pourrait évoquer le crédit, mais l'industrie, mais l'agriculture avec le crédit foncier, etc. etc.
Et cette espèce de foisonnement s'accompagne, bien entendu, d'une énorme mutation dans tous les domaines de la société. La France est en train de faire sa révolution industrielle avec un peu de retard sur l'Angleterre, mais elle l'a fait pleinement à ce moment.
Elle l'a fait. Alors, c'est vrai, comme le rappelait tout à l'heure Gabrielle Houbre, que les ouvriers, les paysans, participent beaucoup moins de cet enrichissement général. D'autant plus que, pour les ouvriers, dans les villes, avec les transformations du baron Haussmann, le coût des loyers devient énorme. Et donc, les gens qui habitaient le centre-ville vont être rejetés à la périphérie. En revanche, les salaires progressent. C'est très significatif, en particulier dans les années 1850. Après, c'est un peu moins dans les années 1860.
Alors, nous nous intéressons particulièrement aujourd'hui aux courtisanes. Alors pourquoi ces courtisanes, j'allais dire, apparaissent? Ce n'est pas vrai, parce qu'on en connaissait depuis bien longtemps, depuis le 18e siècle et même avant, à la limite. Mais comment expliquer qu'elles deviennent un véritable phénomène sous le Second Empire?
Alors tout d'abord, pour le 19e siècle, il faut évoquer le mariage. C'est un mariage tardif, c'est un mariage qui n'est pas un mariage d'inclination, c'est-à-dire un mariage d'amour, mais un mariage d'intérêt, où en général les jeunes gens sont mariés par leurs parents, et de ce fait, ça incite bien souvent dans les élites, la bourgeoisie ou la noblesse, les hommes à aller voir ailleurs et à entretenir des maîtresses. Vous aviez rappelé tout à l'heure que le phénomène naît bien évidemment avant le Second Empire, on peut rappeler Balzac, oui. Splendeur et misère des courtisanes, 1838.
Barnet, etc.,
on peut évoquer La Dame aux Camélias, d'Alexandre Dumas-Fils, 1850. Mais pourquoi sous le Second Empire? Alors tout d'abord, la fête impériale que vous avez évoquée, l'enrichissement, c'est un fait.
Une sorte de vie facile qui s'installe.
Une vie facile. Le fait que la politique est très restreinte, c'est une démocratie autoritaire. guerre. La presse elle-même, on ne lit pas ce qu'on veut dans la presse de l'époque, et donc les gens vont avoir tendance à se tourner vers d'autres plaisirs. Plaisirs qui ont des vitrines, hein. L'opéra, l'opérette connaissent leur faste.
Le ballet, bien entendu. Hein.
Et oui, avec Offenbach, et gravitant autour d'Offenbach, vous avez cité tout à l'heure leur nom, le nom d'Hortense Schneider, elle n'était pas la dernière de ces courtisanes.
Et puis l'exemple venait d'en haut.
L'exemple venait d'en haut. Napoléon III a collectionné les maîtresses.
Et son cousin, le prince Napoléon, Plomplon aussi, du reste.
Également. Rachel, l'actrice, était la maîtresse de Plomplon, mais il y en avait des dizaines d'autres, comme les présidents du corps législatif. On peut citer le nom du comte de Morny, par exemple. Mm-hmm. Les ministres d'État, je pense ici à Fould et Rouher. Tous les dirigeants politiques entretenaient des maîtresses et frayaient avec ce demi-monde.
Qui étaient-elles, ces maîtresses? D'où venaient-elles? Est-ce qu'on peut les ranger dans certaines catégories? C'est ce que nous allons voir maintenant.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Et avant votre récit, Franck, sur Europe 1, nous parlons aujourd'hui des courtisanes, des demi-mondaines, ces cocottes du Second Empire. Nous les évoquons avec vos invités sur Europe 1, les historiens Éric Anceau et Gabriel Houbre.
Gabriel Houbre, auteur du livre des courtisanes, Archives secrètes de la police des mœurs, c'est publié chez Talendier. C'est un ouvrage passionnant parce qu'on a l'impression d'entrer presque par effraction dans les dossiers d'une police qui était bien faite et qui suivait de très près toutes sortes de dossiers. C'est d'ailleurs un registre. Vous racontez ça, Gabriel Houbre, c'est un registre qui présentait la particularité d'être fermé à clé. On ne pouvait pas y entrer.
Oui, effectivement, l'ensemble des rapports des agents de la police des mœurs s'était centralisé dans un seul et unique registre, très soigneusement conservé dans le bureau du chef de la division qui s'occupait de la prostitution, et ce registre fermé à clé. Ce qui était fort... prudent, étant donné effectivement les renseignements qu'on peut trouver à l'intérieur.
Alors j'ai présenté d'emblée les choses sous un jour assez leste en parlant des courtisanes, des grandes allongées. Vous nous rappelez, vous, quitte à casser un peu la fête impériale, vous nous rappelez que ce sont toutes des prostituées néanmoins. Alors cette prostitution s'établit selon des modes très différents, selon qu'on a affaire aux prostituées de quartier, si je puis dire, de maisons très modestes, ou alors aux grandes courtisanes qui fréquentent les ministres et les banquiers.
Oui, effectivement, c'est le monde de la prostitution. On devrait parler d'ailleurs des prostitutions plutôt que de la prostitution. Oui. Est un monde extrêmement diversifié. Il y a déjà deux grandes catégories, c'est-à-dire d'un côté, on a ce qu'on appelle les filles soumises ou encartes, qui sont connues et enregistrées à la préfecture de police de Paris, puisqu'on va rester sur Paris.
Et à l'intérieur, les filles soumises sont en quelque sorte enregistrées.
Elles ont un numéro, oui, voilà. Une carte, on leur donne une carte qui comprend à la fois le règlement, puisqu'il faut quand même rappeler ici que la prostitution n'est pas un délit pénal au 19e siècle, mais elle est simplement réglementée. Nous sommes dans un système réglementariste, hein, donc ce n'est pas de la compétence des tribunaux, c'est juste de la compétence du préfet de police. Et donc parmi ces filles soumises, on a à la fois des filles qui travaillent de façon isolée, qui racolent, si vous voulez... sur les grands boulevards par exemple, et puis évidemment il y a aussi les filles qui travaillent dans les maisons de tolérance, les bordels, et qui sont... Alors... dans des situations effroyablement tristes et pauvres.
Et toutes celles-là sont soumises à des visites médicales régulières, donc il y a tout un aspect hygiène et santé, en quelque sorte.
Voilà, c'est quelque chose d'important, puisque le 19e siècle est tenté par la contagion de la syphilis, donc ces filles encartées ont pour premier devoir d'aller se présenter au dispensaire à la visite médicale, qui est très redoutée, bien sûr, d'abord parce qu'elle est très brutale, tous les 15 jours. Et puis face à ce monde des filles soumises, on a justement celles qu'on appelle les insoumises ou les clandestines.
Donc ce sont les clandestines. Et quelle est la proportion à peu près?
Alors environ 6 à 7 clandestines pour une encartée. Donc la différence est quand
beaucoup
même de taille.
Beaucoup plus d'insoumises en fait, oui.
Il y a beaucoup plus d'insoumises. Alors, c'est très difficile, puisque justement, elles ne sont pas encartées, donc il n'y a pas de statistiques officielles. Mais d'après les recoupements qu'on peut faire, elles sont effectivement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus nombreuses que les filles soumises. Et avec la même diversité, encore une fois, parmi ces filles clandestines, hein, vous trouvez aussi bien la jeune femme qui va se donner pour un peu de nourriture, par exemple, au hall, hein, ou quelques sous. Et puis, on arrive tout en haut de la pyramide sociale de la prostitution, on arrive à ces grandes courtisanes auxquelles vous avez fait référence.
Pardon de ne m'intéresser qu'aux courtisanes, mais c'est puisque je veux que nous arrivions tranquillement à notre sujet principal, c'est-à-dire la comtesse de Castiglione, qui a été l'une des maîtresses de Napoléon III. Je vais raconter son cas dans quelques minutes maintenant. Pour ne parler que de ces grandes courtisanes, ce qui est très étonnant, c'est leur origine sociale. La plupart sont elles-mêmes issues du grand monde. Pas toutes, mais certaines.
Non, pas toutes. C'est certainement pas la majorité. En fait, là aussi, il y a une plus grande diversité que ce que l'on a coutume de penser. Et alors, on trouve aussi bien des femmes qui viennent de petites extractions. Je pense par exemple à quelqu'un qui n'est pas connu, mais que le registre en fait a révélé, qui est Catherine Schumacher, qui est la fille d'un cocher et qui termine, après 20 ans de prostitution, par épouser le marquis d'Orvault de Maubreuil. Grande famille. Alors lui, à 82 ans, il n'a plus un sou. Donc voilà, il fait un mariage un peu désespéré pour essayer d'assurer ses vieux jours. Et cette prostituée, évidemment, achète sa respectabilité, et d'ailleurs elle va terminer quasiment dame patronesse sur les dernières années de sa vie.
Oui, ça c'est souvent le sort des vieilles courtisanes. Lorsqu'elles se retirent de tout ça, elles deviennent des dames très comme il faut et qui ne manquent jamais une messe. Comment est-ce qu'on les appelle, Éric Anceau? Est-ce qu'elles ont... On dit les cocottes en fait, ou les... On dit les lionnes aussi.
On dit les lionnes, oui, ouais. C'est l'un des surnoms qu'on leur donne le plus fréquemment. Alors certaines avaient de magnifiques chevelures, on évoquera tout à l'heure bien sûr la Castiglione, sans doute aussi en rapport avec leur caractère, qui pouvait ne pas être facile avec leur protecteur. Hein. Nous évoquions tout à l'heure la Païva, la marquise de Païva. C'est un cas un petit peu emblématique. Hein. Et elle rejoint ce que disait tout à l'heure Gabriel Oubre. Il faut s'imaginer qu'elle est née dans le ghetto de Moscou. Elle était juive, elle a été ramenée par un Français à Paris. Elle a épousé le marquis de Païva, qui était un richissime Portugais, qui était le frère de l'ambassadeur du Portugal en France. Au lendemain du mariage, elle l'a quitté en lui disant « Je vous ai épousé pour la respectabilité ». Et elle a pris un protecteur. Mais quel protecteur? Il s'agissait du marquis Henkel de von Ersmarck, c'est-à-dire la deuxième fortune de Prusse.
Immensément riche.
Qui lui a acheté un superbe hôtel particulier.
Place Saint-Georges.
Construit, ouais. Tout à fait. Et un château carrément en Seine-et-Oise, donc superbe à Pontchartrain.
Et elle se fera construire plus tard le célèbre hôtel particulier des Champs-Élysées, évidemment, devant lequel nous passons, enfin moi en tout cas,
assez
chaque jour pour venir
à la radio.
Merci beaucoup. Éric Anceau, Napoléon III, c'est cette grande biographie incontournable qui vient d'être rééditée chez Talendier dans la collection Texto, donc en poche. Et puis, de Gabriel Oubre, le livre des courtisanes, archives secrètes de la police des mœurs. On entre là-dedans comme on entrerait dans le plus singulier des romans secrets. C'est également édité chez Talendier.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand.
Et voici votre récit du jour, Franck, consacré aujourd'hui à la comtesse de Castiglione.
La reine de la saison est nommée, c'est cette beauté incomparable que l'Italie nous a envoyée. L'italienne à Paris, tel est le titre d'une symphonie que l'admiration chante du matin au soir et du soir au matin. Voilà ce qu'écrivait un célèbre chroniqueur au début de l'année 1856. Celle qui se voit ainsi qualifiée de reine de la saison parisienne 1856 est une toute jeune femme de 19 ans seulement. Il faut l'imaginer mince et lancée, des cheveux très bouclés, très foncés, sur le plus ravissant visage. Virginia, c'est son prénom, vient tout juste d'arriver à Paris avec son mari, le riche et élégant comte de Castiglione, qui a 10 ans de plus qu'elle. Ces voyageurs piémontais se sont installés dans un meublé de luxe, et ça ne s'invente pas, ils se sont installés au 10 de la rue de Castiglione. Ils l'ont fait exprès, bien entendu, ça fait toujours bien sur les cartes. Madame de Castiglione, Madame de Castiglione, rue de Castiglione, vous imaginez. Alors grâce au père de la jeune comtesse qui se trouve être attaché à l'ambassade de Piémont, je dis Piémont parce qu'à l'époque vous savez que l'Italie n'est pas encore unifiée, c'est d'ailleurs tout l'enjeu de notre histoire d'aujourd'hui. Grâce aussi à leur ami le prince Poniatowski, toutes les portes de la haute société parisienne s'ouvrent devant eux. À commencer par celle de l'hôtel particulier rue de Courcelles de la propre cousine de l'empereur, l'incontournable princesse Mathilde. Le soir où les Castiglione font leur entrée chez la princesse Mathilde, ça a été un moment incroyable. L'assistance pendant plusieurs secondes. L'assistance a fait silence et retenu son souffle. Tant de beauté, tant de fraîcheur inconnue, nouvelle. Virginia avait, nous dit un témoin, des plumes roses dans ses cheveux bouffant sur les tempes. Le reste de sa chevelure était rejeté en arrière avec deux boucles pendantes. Elle semblait une marquise d'autrefois coiffée à l'oiseau royal. Les conversations finissent néanmoins par reprendre, la musique aussi. On présente les nouveaux arrivés à la maîtresse de maison. Et c'est à ce moment-là que l'assistance se tait à nouveau. On vient d'annoncer Sa Majesté l'Empereur. Napoléon III s'avance, il salue sa cousine, il se racle un peu la gorge devant la belle comtesse du Piémont. Il se trouve que l'empereur est seul parce qu'en ce début de l'année 1856, l'impératrice est retenue chez elle par une grossesse qui est déjà bien avancée, c'est-à-dire que son fils, le prince impérial, va naître là dans quelques semaines. Ceux qui connaissent bien Napoléon III ont remarqué ce soir-là que l'empereur, alors que sa cousine lui présentait la jeune comtesse, ils ont remarqué que l'empereur a tortillé de sa main gauche sa célèbre moustache. Ah, ça c'est un signe qui ne trompe pas. Ça tombe bien, Madame de Castiglione n'est pas là par hasard. Elle a été envoyée à Paris avec une mission qui concerne justement l'empereur des Français.
L'ère des bijoux sur Europe 1, extrait du Faust de Charles Gounod, Franck.
Alors avant l'empereur Napoléon III, il faut dire que Virginia de Castiglione avait su séduire un autre monarque, justement le roi de Piémont-Sardaigne, Victor Emmanuel II. Or, la comtesse n'était pas fidèle en ménage. Très tôt, elle avait trompé son mari. Alors d'abord, elle l'a trompé avec un bel officier du nom d'Ambrogio Doria. Et puis assez vite, elle s'est dit que celui qu'elle aimait chez les Doria, c'était pas Ambrogio, c'était son frère Marcello. Et donc, elle a eu une liaison avec Marcello. Elle lui écrivait des lettres codées. Oh, c'est un code très simple. Elle mettait à la place des lettres leur rang dans l'alphabet. Donc c'est assez facile à déchiffrer pour tout vous dire. À l'automne 1855, on peut dire que son mari s'étant rendu compte de tout ça, il y a eu énormément... Ils passent leur temps à se disputer l'un et l'autre. Les colères sont nombreuses dans ce ménage-là. Et Virginia a repris à l'automne 55 une vie plus calme à Turin. On la voit passer de longues heures à sa fenêtre à considérer la pluie qui tombe. Il pleut souvent à Turin pour tout vous dire. Virginia s'ennuie. Elle est belle, ça c'est certain, elle est très belle, mais quoi faire de cette beauté? Finalement, le seul qui vienne la distraire un peu dans cette ennuyeuse solitude, c'est l'oncle de son mari, c'est Chigala, c'est l'aide de camp du roi. Ah, ça va jouer un rôle très important. Le vendredi 16 novembre 1855, il pleut une fois de plus. François, donc le mari de Virginia, se trouve à ce moment-là à Milan. Et au moment où le soir tombe, on voit Virginia se coiffer soigneusement, s'habiller de velours noir. Et elle attend, et elle attend. À 8 heures, on frappe à la porte qui donne sur la rue de l'autre côté du jardin. Le maître d'hôtel est là qui ouvre. Un homme entre rapidement. Il traverse le jardin. La comtesse Castiglione attendait cet homme, il est introduit dans son salon, il apparaît, et qui est-il? Eh bien, c'est en personne le roi Victor Emmanuel II. Il faut vous dire qu'à cette époque, Victor Emmanuel et son principal ministre Cavour sont littéralement obsédés par une grande ambition, faire l'unité italienne. Ils ont besoin, pour les soutenir dans leur grand projet, d'abord contre l'Autriche, ils ont besoin de l'appui de la France. Autrement dit, ils ont besoin de la bienveillance de Napoléon III. Je laisse ici la parole au cher Alain Decaux, qui a été l'un des grands biographes de la Castiglione. N'existait-il pas, nous dit Alain Decaux, un moyen d'intéresser davantage Napoléon III à la cause italienne? Pourquoi ne pas lui déléguer une piémontaise choisie parmi les plus belles? Les deux hommes, c'est-à-dire le roi et le ministre, tombèrent d'accord. Ils ne furent pas longs sans doute à fixer leur choix. Ne possédait-on pas à Turin la plus jolie femme d'Europe, d'après le comte Walewski en personne? Lequel des deux avança le premier le nom de la comtesse de Castiglione, on ne sait. Cavour, peut-être, dont on connaît une lettre avouant avec un évident réalisme la décision qu'il venait de prendre. Mais si ce rôle de Cavour n'était pas ignoré, l'intervention du roi, en revanche, était restée dans l'ombre, et cette intervention le restera jusqu'à la découverte, très tard, on est dans les années 1950, de ce journal de la comtesse de Castiglione dans lequel tout est dit. On en vient donc à ce fameux soir du 16 novembre. Le roi a causé, dit la comtesse dans son journal, il a causé du monde, de ses malheurs, des soucis, de la guerre. L'entrevue durait depuis une heure environ. Virginia écoutait attentive et d'un seul coup, on a introduit Shigala, donc son oncle, hein, qui vient s'assurer sans doute que tout se déroule comme prévu. Après quoi, le général, qui ne reste qu'un instant, se retire sur la pointe des pieds et il va laisser le roi et la comtesse seuls.
Europe 1.
Le récit de Franck Ferrand.
Avec un récit sur Europe 1 consacré cet après-midi à une beauté piémontaise, Virginia de Castiglione.
Cette Virginia de Castiglione s'est vue confier, Julia, vous l'avez bien compris, une mission par le roi en personne, son roi de Piémont, et par son principal ministre Cavour. Et c'est muni de cette mission-là qu'elle fait une entrée fracassante dans le salon de la princesse Mathilde, rue de Courcelles. Cette entrée qui a tellement marqué les témoins, a commencé par le plus important d'entre eux, le seul visé par la mission secrète de Virginia, l'empereur Napoléon III en personne. Alors, à quelques soirs de là, l'empereur la croise à nouveau chez son cousin, le prince Jérôme. Il arrive, au moment où il sort, il voit la comtesse qui est en train d'entrer. « Ah, madame, lui dit-il, vous arrivez bien tard. » Il y a déjà du regret dans la voix de l'empereur. Et puis, le 29 janvier 1856, est donné au palais des Tuileries le grand bal de la saison. En l'honneur de la victoire de Crimée, les Castiglione ont reçu une invitation. Et c'est le jour même où Cavour avait envoyé cette lettre à sa cousine, parce que c'est sa cousine, cette comtesse de Castiglione. « Réussissez, lui écrivait-il, par les moyens qu'il lui plaira, mais réussissez. » De nouveau, Alain Decaux. Il était 9h lorsque le comte et la comtesse de Castiglione présentèrent leur invitation au chambellan en habit rouge, chargé de recevoir les arrivants. Le spectacle était magnifique sous l'ardente lumière qui se répandait à flots des lustres. 6000 invités se pressaient dans les salons. Virginia s'avança vers les trônes de leur majesté. Avec cette grâce exquise qui donnait à sa beauté son sens et sa plénitude, elle exécuta devant Napoléon sa révérence de cour. Des centaines d'yeux considéraient avidement la scène. Quand la comtesse se releva, on crut remarquer une certaine émotion dans les yeux de l'empereur. L'étiquette voulait que Virginia s'effaça aussitôt, ce qu'elle fit. Elle se retire dans une salle de jeu qui se trouve juste à côté, et on voit bientôt Napoléon III franchir de ce pas lent et un peu traînant qui lui était habituel la porte du salon. Il s'approcha, effilant sa moustache. Virginia considérait sans crainte ni timidité l'empereur qui s'avançait pour lui parler. Alors il est toujours difficile, évidemment, et peut-être pas indispensable, d'établir précisément quand une relation est devenue intime entre deux personnages de l'histoire. Ce que chacun a pu constater, en tout cas, c'est ce qu'il s'est passé un certain soir du printemps 1856 à Villeneuve-l'Étang. L'empereur, ce soir-là, emmène la comtesse en barque jusqu'à une île isolée au milieu du petit lac. C'est un petit lac artificiel qui a été construit, qui a été creusé juste à côté du château. Et l'on cite là l'un des chroniqueurs du Second Empire, le comte de Vielcastel. « À la dernière fête de Villeneuve-l'Étang, écrit-il, la comtesse de Castiglione s'est longtemps égarée dans une île placée au milieu du petit lac avec l'empereur. Elle est revenue, dit-on, un peu chiffonnée et l'impératrice a laissé voir quelques dépits. » La liaison va se poursuivre, elle va devenir très importante à l'automne pendant cet hiver 56-57. On voit d'ailleurs la comtesse invitée à l'une des fameuses séries de Compiègne, vous savez, ces espèces de séjours qu'organisaient l'empereur et l'impératrice et où ils recevaient toute la bonne société. Elle est, je vous l'ai dit, munie d'une mission. Alors, la question qui se pose, c'est de savoir en quoi consistait exactement ce rôle joué par Virginia auprès de Napoléon III. Eh bien, on pense que ça d'abord était un rôle d'information. Il s'agissait de mettre l'empereur au courant de tout ce qui se préparait du côté du Piémont. Et puis, évidemment, elle avait pour mission d'encourager dans l'esprit de l'empereur des Français le penchant vers l'unité italienne qui ne demandait qu'à s'y exprimer. Napoléon, il faut le dire, Napoléon III n'avait autour de lui, à part Mathilde et son frère, qu'un seul homme favorable à l'Italie unifiée, c'était le docteur Conneaut, son médecin. De là, les encouragements prodigués par Virginia, qui eurent sans doute pour conséquence d'entretenir les sympathies italiennes de l'empereur. On sait en tout cas à quel point Napoléon III va finalement pencher en faveur de l'unité italienne jusqu'à engager la France dans une guerre pour y parvenir. Et puis un jour, on est à l'automne de 1857, en quittant Compiègne, Virginia disparaît du monde, si je puis dire. Elle quitte aussi la France dans un premier temps. Elle rentre à Turin. Napoléon III a rompu avec elle. Que s'est-il passé? Pourquoi cette rupture si brutale et inattendue? C'est ce que je vous propose de voir dans un instant avec mon invité Nicole Albert, qui est l'auteur d'une biographie magnifique de la Castiglione.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et avec votre invité du jour, Nicole Albert, docteur ès lettres en littérature comparée, spécialiste du 19e siècle et auteur de La Castiglione, vie et métamorphose aux éditions Perrin.
Alors justement, Nicole Albert, merci d'être des nôtres. Vous avez, je disais, publié un très beau livre chez Perrin, « Vie et métamorphose » de la Castiglione. On va venir sur certains aspects moins connus de ce personnage, mais avant, réglons cette question que j'ai laissée en suspens. Comment expliquer d'abord que, si brutalement, à l'automne 57, la relation qui commençait à devenir très connue, peut-être trop connue, entre l'empereur et la comtesse, ait été rompue?
Oui, il y a un faisceau de circonstances. Comme vous l'avez dit, Napoléon III commence à se lasser de la comtesse de Castiglione. Il a d'autres femmes en vue. Elle a un tempérament un peu impulsif qui le dérange. Elle ne se cache pas assez de cette relation. Et il se trouve que dans la nuit du 5 au 6 avril 1857, alors qu'il sort de chez elle, elle habite maintenant avenue Montaigne, il est attaqué par trois inconnus, trois carbonari, qui veulent visiblement, qui en veulent à sa vie. Le clocher parvient à les faire fuir. On les arrête. Et évidemment, comme ils sont italiens, aussi le lien est établi entre ces individus, ces révolutionnaires et la Castiglione, qu'on rend plus ou moins complice de l'attentat. Donc à ce moment-là, on lui fait comprendre que...
Quand vous dites « on », c'est Morny, c'est...
C'est Morny, c'est la princesse aussi, évidemment Eugénie qui a, je pense, qui a joué un rôle important dans les bruits qui courent. La presse, évidemment, les journaux se font l'écho de ses soupçons. Et puis finalement, pour Napoléon III, ça tombe très bien parce qu'il avait envie de passer à autre chose.
Donc, il commence à se lasser de sa belle comtesse.
Exactement. Donc on la menace de l'arrêter, on lui fait comprendre qu'elle doit retourner en Italie, on prétend qu'elle est repartie en Italie. En réalité, elle s'est éloignée, elle s'est fait discrète. Elle va revenir d'ailleurs assez rapidement grâce à la princesse Mathilde, hein, dès le mois suivant.
La cousine de l'empereur.
Voilà, sur le devant de la scène. Malgré tout, cet événement marque la rupture plus ou moins définitive. Ils vont se revoir par la suite, mais leur relation va évidemment s'effilocher.
Oui, c'est fini en fait, la magie est passée.
Voilà.
Vous avez dit, j'en profite pour ouvrir une courte parenthèse, vous avez dit que l'impératrice Eugénie avait joué un rôle. On n'a pas du tout parlé de la réaction d'Eugénie à toutes ces maîtresses de son mari, ce qui est assez, j'allais dire, étrange. Après tout, ça peut tout à fait se comprendre, mais ce qui n'est pas très fréquent à cette époque, c'est que Eugénie est très opposée à toutes ces maîtresses et qu'elle fait des colères terribles à l'empereur, hein, lui fait des crises.
Absolument, c'est-à-dire qu'elle les tolère, elle connaît son tempérament. De toute façon, sur le plan intime, on n'était pas là, mais leur relation a vite périclité. Ils ont eu ce fils et visiblement leur intimité ensuite a cessé. Donc elle tolère ses maîtresses, mais elle exige de l'empereur qu'il soit le plus discret possible.
Et peut-être que finalement, cette Virginia n'était pas très discrète. Elle avait tendance à parler un peu. D'abord, elle se confie beaucoup à son journal, mais est-ce qu'elle se confie aussi à ses amis?
Oui, elle se confie à ses amis, elle exhibe les cadeaux que lui fait l'empereur,
mais oui.
Ses émeraudes avec lesquelles elle repart apparemment au moment de sa disgrâce. Il lui verserait une rente, en tout cas c'est ce que croit savoir la princesse Mathilde, qui ensuite rejoindra le camp des anti-Castiglione. Donc elle se vante, elle ne se cache pas, elle exhibe les draps en dentelle qu'il lui offre, en plus des cadeaux extrêmement chargés du point de vue symbolique. Donc il ne fait aucun doute que l'empereur est son amant, qu'il l'entretient largement et qu'elle en est extrêmement fière.
Oui, et ça, c'est évidemment, ça ne pouvait pas durer très longtemps. Alors, il faut que nous tirions un bilan de la mission qu'avait confiée le roi de Sardaigne et Cavour à Madame de Castiglione. Il lui avait demandé de convaincre Napoléon III d'aider les Piémontais à constituer, à forger l'unité italienne. Il semble bien qu'elle y soit parvenue tout de même, puisque malgré ou peut-être à cause de l'attentat d'Orsini qui aura lieu un peu plus tard, l'empereur, un attentat donc d'un nationaliste italien contre sa personne et qui va faire beaucoup de morts, enfin un attentat absolument horrible, un attentat à la bombe, malgré ça, Napoléon III va finalement aider l'unité italienne.
Oui, absolument. Il va d'ailleurs signer le traité de Plombière avec Cavour en 1858, même si à ce moment-là, la Castiglione n'est plus vraiment dans le paysage. On peut imaginer qu'elle a joué un rôle important, qu'elle a préparé l'empereur, qui a d'ailleurs, comme vous le disiez, a toujours eu des sympathies pour l'Italie. Donc, je pense que sa mission, c'était plutôt une mission qui venait compléter la mission diplomatique. Évidemment, elle était la première ensuite à dire qu'elle a pratiquement œuvré à l'unité italienne.
Alors, à partir de la rupture entre l'empereur et la comtesse, il y a encore 12 bonnes années de Second Empire. C'est-à-dire que va-t-elle devenir pendant tout ce temps, à l'époque où le régime existe toujours, mais où elle n'a plus cette liaison privilégiée avec l'empereur ?
Bah, tout d'abord, elle va disparaître. Elle va retourner en Italie quelque temps, sans pour autant reprendre la vie commune avec son mari, dont elle s'est séparée. Elle va rester un an ou deux près de Turin, à s'ennuyer ferme, comme elle le faisait à l'époque de son mariage. Et puis, évidemment, au bout d'un moment, elle va vouloir revenir à Paris. Donc, elle revient à Paris assez discrètement, il faut dire. Et puis, rapidement, évidemment, le bruit court qu'elle est là. Et elle va de nouveau être invitée, d'ailleurs, à la cour des Tuileries, notamment en 1863, pour une soirée mémorable, une nouvelle soirée mémorable, puisqu'elle vient à cette soirée déguisée, cette soirée costumée. Elle apparaît en reine d'Étrurie, dans un costume qui, là aussi, va faire couler beaucoup d'encre, parce qu'on le juge, évidemment, un petit peu leste, un peu indécent. Voilà, donc elle frappe très fort pour son retour sur la scène parisienne.
On a l'impression néanmoins, et malgré ses tentatives répétées du reste, on a l'impression que quelque chose est cassé en elle et qu'elle n'arrive plus jamais à s'imposer réellement. Alors après la chute du Second Empire, c'est encore plus évident.
Effectivement, le personnage qui revient à Paris au début des années 60 est une femme. Alors, elle n'est pas très âgée, elle est née en 1837, donc elle est encore très jeune. Elle a une vingtaine d'années, mais certaines mauvaises langues se plaisent à souligner que sa beauté n'est plus ce qu'elle était.
Elle finira d'ailleurs extrêmement laide, mais enfin ça c'est autre chose, hein, mais beaucoup plus tard.
Beaucoup plus tard, mais effectivement, elle paraîtra vieille assez tôt. Donc elle revient, c'est une femme désabusée, extrêmement misanthrope, qui ne se fait plus aucune illusion, ni sur les hommes, ni sur la politique, ni sur son époque. Donc c'est quelqu'un en fait qui juge tout d'un petit peu haut, comme ça, qui apparaît, qui disparaît, mais qui a décidé de garder une sorte de posture en retrait par rapport aux événements.
Elle mourra très tard, en 1899, à Paris, place Vendôme, chez elle. On dit qu'elle vivait dans un appartement complètement recluse, au milieu dans une sorte d'obscurité permanente.
Alors, pas place Vendôme, puisque ça c'est son avant-dernier appartement, mais rue Cambon. Dans un petit appartement où elle vit effectivement dans 2-3 pièces avec ses chiens, puisqu'elle a reporté son affection sur ses chiens. Elle ne sort plus, elle reste en guenille toute la journée. Déjà, quand elle habitait place Vendôme, elle vivait derrière les volets tirés dans des pièces qui étaient entièrement peintes en noir, murs et plafonds, au milieu des photographies qu'elle avait accumulées.
Alors voilà, ça vous faites bien de le signaler. C'est que la passion de la comtesse de Castiglione, ce sera la photographie.
Oui, tout à fait. Alors ça, c'est une passion qu'on a découvert assez tardivement, puisque les photos qu'elle a fait réaliser par Pierre-Louis Pierson, qui était d'ailleurs le photographe de l'empereur, parmi d'autres, étaient des photographies qui ne circulaient que dans le cercle privé, qu'elle distribuait à ses amants, à ses amis, qu'elle a donné d'ailleurs aussi au roi Victor Emmanuel. Donc elle se faisait photographier toutes les semaines,
pendant des
heures.
On est dans les débuts de la photographie, évidemment, même si ce n'est pas tout à fait la naissance, mais enfin quand même, ce sont les débuts de la photographie. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce sont des photographies, entre guillemets, expérimentales, quasiment artistiques. Mmh. Il y a une démarche artistique chez elle à travers...
Tout à fait, ce ne sont pas des photographies officielles où l'on pose, comme on a pu voir Napoléon III poser seul ou avec son épouse. Ce sont des photographies dans lesquelles elle se met en scène, et quand je dis elle se met en scène, c'est elle qui décide du dispositif, du costume, des accessoires, des variantes aussi, puisqu'elle va, il y a presque des séries d'instantanés comme ça. Et puis ensuite, elle intervient sur les photographies puisqu'elle les retouche en les coloriant, puisqu'à l'époque, il y avait une mode qui consistait à colorier les photographies.
C'est peut-être le moyen qu'elle a trouvé de satisfaire à son narcissisme qui était très grand. Elle avait besoin qu'on l'admire, qu'on la regarde, d'être en quelque sorte le point de mire. Eh bien, le moyen, lorsqu'on n'est plus le point de mire de toute une grande société de cette période fastueuse du Second Empire, c'est peut-être tout simplement d'être celui du photographe qui a installé sa grosse machine, parce qu'à l'époque, les appareils de photographie étaient très lourds, juste devant elle.
Oui, tout à fait.
Merci beaucoup, Nicole Albert. Merci. La Castiglione, Vise et Métamorphose, Vise au pluriel, parce que c'est vrai qu'elle en a comme les chats un certain nombre, c'est publié chez Perrin.